Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle.
C'est non.
Qui vient de me voir, c'est une merde, Noé.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Vive le cinéma!
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, dixième jour de captivité. Bon ben, vous l'avez entendu, hein, ils ont réussi à me rattraper. Enfin, ils m'ont pas rattrapé. J'étais, enfin, je crois que j'ai plus envie. J'en ai ras-le-bol. Vous avez la ref?
C'est sur Michel Serrault.
Michel Serrault, la cage au folle 3.
Ah, ok. Ah.
Je tiens à dire que Simon a coincé une dosette de ketchup dans ses lunettes.
Voilà, pour aucune raison valable.
Rien. Juste pour voir ce que ça allait
déclencher. Si ce n'est celle de provoquer un commentaire extrêmement froid de la part de Nicolas.
Allez, on tient bon, on y est presque. Parce que voilà, je commence à plus avoir toutes les consonnes. Il me manque le B, le M, le S. On joue les AI.
Comment va ta grosse mine? Ça marche pas du tout.
Non,
c'est compliqué.
Non, le M en plus.
Bah, je crois qu'il faut qu'on parle très vite de film. Allez, là, parce qu'on est en train de déraper là.
Allez, on y va. On commence par le nouveau film de Wim Wenders, Perfect Days, après son projet documentaire sur l'artiste en scène Kiefer dont nous vous parlions il y a quelques mois. Non, quelques semaines, quelques...
Il y a une semaine.
À ce micro, le réalisateur allemand revient à la fiction pour raconter l'histoire d'un, ce qu'on pourrait appeler un monsieur pipi, hein, à Tokyo, en tout cas sa vie quotidienne, et la poésie cachée dans le nettoyage des urinoirs. Simon, une poésie à laquelle tu n'as pas été complètement sensible.
Non, et pourtant, il y a du bon caca dans ma cacatière. C'est un film, moi, qui proposait quelque chose qui, sur le papier, m'intéressait énormément. C'est-à-dire que je suis assez sensible, moi, à cette idée, quand bien même elle peut paraître un peu naïve, qui est de dire, en gros, bah, voilà le métier qui regardait avec le plus de mépris, voire qui n'est jamais regardé, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour récurer les chiottes publiques. Je pense pas qu'il y ait de civilisation, de culture, de pays dans lequel c'est un métier qui est particulièrement valorisé, particulièrement bien vu. C'est-à-dire, quel que soit le pays que tu vas observer, la culture que tu vas regarder, tu sais que c'est un des métiers les moins qualifiés, et puis pas un de ceux dont les gens se vantent au baptême du petit dernier en faisant « bah moi j'ai bien récuré les chiottes ». Or, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, et ça nous est dit dès le début du film, et dès son synopsis, c'est vraiment le projet, l'homme que nous allons suivre, qui est donc tu disais Monsieur Pipi, bah, c'est quelqu'un qui semble en tout cas particulièrement solaire, rayonnant, qui est un observateur joyeux de la vie, de l'existence et des existants. C'est-à-dire que il communique avec les gens, il a une manière de se lier, de croiser les autres, qui semble, on pourrait dire, incroyablement sereine, apaisée, philosophe et positive. Et donc en gros l'idée, bien sûr, la question c'est comment se fait-il que cet homme qui a ce métier-là réussisse à vivre de la sorte et à être, c'est tout bête, mais aussi heureux. Le problème c'est que le film ne va jamais traiter son sujet pour une raison toute bête. C'est que si on veut raconter ça, si on veut que ça ait un petit peu d'intérêt, il faut prendre à bras le corps son sujet. Or, le film est, je suis désolé, très timide en manière de récurage, quoi. C'est le Amélie Poulain du caca. Et en fait, non mais c'est tout bête, on peut, il y a un intérêt à essayer d'établir comment cet individu a atteint une telle force, hauteur de vue, et puis après, dans une deuxième partie, le film nous explique un petit peu son passé, mais pourquoi pas. Mais pour que ça ait de l'intérêt, il faut d'abord établir ce qu'il fait et ce qu'il est. Or, quand il nettoie les toilettes, il est là avec un petit pchit, on le voit faire 2-3 coups de pchit sur un petit robinet, tout va bien, c'est rigolo.
Mais c'est pas comme ça que tu nettoies les toilettes, toi?
Non, bah moi déjà je les nettoie pas.
T'as Nico pour ça.
Toi tu la cherches celle-là.
Le film pourrait être en odorama, ça se passerait bien. Ce que je veux dire, c'est que tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un moment où c'est un peu dur quand même d'aller nettoyer les fientes d'autrui. C'est pas le métier le plus rigolo du monde. Ça t'agresse physiquement, tu travailles avec des produits chimiques. C'est pas valorisant. Les gens qui te croisent te disent pas genre, bien joué bonhomme, ça c'est du service public. Non, me serre pas la main. Donc en fait, à partir de là, si le film ne prend pas ça en charge, ne prend pas ça en compte, s'il ne me montre pas qu'est-ce que c'est de se lever le matin et après sa douche d'aller nettoyer le vomi des teufeurs, S'il ne veut pas accepter de montrer ça à l'image, alors dans ce cas-là, ça n'a aucune valeur que de me dire « Regardez comme il est philosophe et comme il voit loin. » C'est trop facile.
Enfin, tu vois, peut-être que les Tokyo... C'est à Tokyo. Hein.
Tokyoïtes.
Peut-être que les Tokyoïtes sont très propres.
non, mais tu sais quoi ? Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Pas d'argument.
Non, zéro, rien.
Non, mais attends.
On est au stade où on y va. Point,
Oui, mais j'ai quoi ? Peut-être bien, mais tu me feras pas croire qu'ils le sont tous à chaque instant et qu'il n'y a jamais de lendemain de soirée à Tokyo. Vu ce que certains picolent, en tout cas, je pense que ça doit avoir des conséquences d'ordre digestif. Et de même que, tu me feras pas croire qu'être celui qui nettoie ses chiottes, même si elles sont moins dégueulasses qu'à Ibiza ou au festival de Siguette, quand bien même c'est pas des toilettes de chantier, tu me feras pas croire que ça n'est pas quand même socialement marqué, connoté et symbolique que d'être celui qui va récurer les chiottes. Ouais. Et donc en fait voilà, le laveur de chiottes est philosophe. Il faut déjà que tu me le montres comme un laveur de chiottes pour que ça ait de l'intérêt de me dire qu'il est philosophe. Sinon c'est trop facile. Mmh.
Alexis. Mais c'est Wim Wenders, il est quand même passé plusieurs fois par Cannes. Il a eu plein de prix ici et notamment la Palme d'Or pour Paris Texas. Moi Paris Texas c'est quand même un film qui s'intéresse un minimum à un certain prolétariat américain avec le personnage de Natasha Kinski et qui pour le coup le fait plutôt bien et contourne pas le sujet. Mais moi ce que je trouve intéressant juste pour élargir un peu là-dessus c'est que c'est le deuxième film que Wenders présente sur la croisette cette année, parce que le premier c'était donc Anselm Kiefer en séance spéciale au tout début du festival. Moi j'aime bien l'idée que un cinéaste puisse venir en compétition officielle mais aussi avec un autre film sous le bras, le projeter en séance spéciale comme une espèce de cadeau pour les festivaliers. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas parce que le film sélectionné en compétition a été sélectionné parce que c'est Wim Wenders, quand bien même le film est peut-être un peu faible ou en tout cas insignifiant par rapport au reste de la compète, parce qu'on a quand même eu des gros morceaux cette année. Et dans ce cas-là, la séance spéciale, c'est un peu le moyen de justifier un peu plus la présence de Wenders, parce que pour moi, Wenders, il est devenu par la force des choses, même si son cinéma m'intéresse plus, il est devenu un peu comme Ken Loach ou Moretti, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un client habitué. Wenders fait un long métrage, on sait que si le calendrier match, il va se retrouver sur la croisette et très certainement en compétition. Est-ce que c'est le sentiment que t'as avec ce film-là ou pas?
Totalement, totalement. Alors après, c'est pas, je veux dire, on n'est pas sur du Wenders bouchonné à infect, hein, sinon ce serait à Venise, mais, mais c'est ça, tu vois. Wenders, quand il fait un truc horrible, ça va à Venise, et quand il fait un truc qui normalement provoque pas d'AVC, il est à Cannes. Et là, c'est vraiment ça, quoi. Ils en ont mis deux pour le prix d'un. Enfin, tu vois, ils l'ont vraiment acheté au prix de gros, quoi.
Mais ce qui est intéressant de Wenders, c'est que c'est un cinéaste foisonnant, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui s'intéresse à des nouvelles formes, qui tente différents types de narration, tant dans le documentaire que dans la fiction. Mais dans la fiction, il faut bien dire quelque chose, c'est que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas produit de récits particulièrement intéressants.
Oui, je pense.
Simon. Oui, puis moi, il y a un truc qui me frappe dans le film. Alors attention à ceux qui nous écoutent, dans ce que je vais dire, loin de moi l'idée de tenser Wenders comme si c'était un horrible occidental néocolonialiste, mais il n'empêche, il va donc nous parler de cet homme japonais, à Tokyo, dans un univers contemporain, qui se veut réaliste, sinon naturaliste, hein. Je veux dire, en gros, la photo est baveuse et c'est du bon numérique qui tâche pour bien te dire « Bienvenue dans la réalité, monsieur Bond !» Et là, moi, j'ai un gros souci, c'est que si tu veux, la caractérisation de notre héros, c'est quoi ? C'est « Il regarde le soleil dans le lointain. » Son appartement est très bien rangé. Ouh, il taille ses petits bonsaïs. Oh là là. Et quand il croise une femme qui enlève son pull, il fait ouh, ouh, ouh. Et en fait, il y a plein de clichés culturels qui ont une base réelle. Les Français sont arrogants et mangent du pain, c'est vrai. Mais en fait, tu ne peux pas mettre tous les clichés culturels sur un seul personnage. C'est pas possible. C'est trop. Et donc ça aussi, ça joue contre le film. C'est-à-dire que moi, je crois plus du tout à ce bonhomme-là, qui me semble être vraiment une pas une caricature. Le mot est un peu trop péjoratif, mais un condensé de nos clichés bienveillants et paternalistes à l'endroit des Japonais, beaucoup plus qu'un personnage réel. Mais bon, ça, c'est du ressenti.
Point fort, point faible, phénomètre, palmomètre, Simon.
Point fort, c'est évidemment l'interprète du film que les vrais qui connaissent, qui savent que c'est le sang de la veine auront reconnu depuis Cure de Kiyoshi Kurosawa, qui est vraiment un remarquable comédien.
Koji Yakusho.
Absolument, c'est un plaisir de le retrouver ici. Point faible, quand un film sur les cacatières peut être en odorama, c'est qu'a priori il traite pas son sujet.
Phénomètre,
zéro. C'est pas fun.
est-ce que ça peut repartir avec une palme ou un prix selon toi?
Ça peut repartir avec un prix d'interprétation et tu sais, c'est le genre de film qui peut avoir un potentiel comme film de secours, tu vois. Genre par exemple, imaginons il y a 3-4 œuvres très clivantes qui justement écartèleraient le jury. C'est le genre d'œuvre sur lequel à un moment quelqu'un fait mais qu'est-ce que vous en avez pensé de celui-là, et en fait personne n'est contre. Parce que il y a pas beaucoup de raisons de détester le film. Moi, il y a un espèce de pour le principe, tu vois, de principe dans la manière dont il raconte son histoire qui fait que je reste en dehors. Mais voilà, le film est pas abominable. Enfin, je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir mangé une grosse tartine de Breya. Enfin, tu vois, c'est.
Perfect Days de Wim Wenders. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Dame Pipi ou Monsieur Popo? Vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Hors compétition, après Wes Anderson, après Danny Moretti, le réalisateur coréen Kim Ji-woon fait lui aussi un film vache-kiri, c'est-à-dire une mise en abîme du réalisateur qui filme un film sur un réalisateur qui filme un film. Dans le Séoul des années 70, Kim veut refaire la fin de son film Cobweb, et ce malgré les plaintes des acteurs et des producteurs.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cobweb de Kim Ji-woon. Alexis, c'est un réalisateur qui a été célébré au dernier festival de Gérardmer. C'est un réalisateur qu'on aime bien, Kim Ji-woon. Qu'en est-il de ce nouveau long métrage?
Avant de parler de Cobweb, effectivement, il faut revenir un tout petit peu sur Kim Ji-woon. C'est un cinéaste qui a été, donc tu l'as dit, honoré au festival du film de genre de Gérardmer parce que c'est un grand nom du film de genre sud-coréen qui a quand même accouché de deux films que je tiens pour être des chefs-d'œuvre, à savoir Bittersweet Life et J'ai rencontré le diable. Le titre m'avait échappé,
désolé. Et Deux Sœurs, c'est du pâté.
Mais Deux Sœurs, c'est incroyable.
Non, mais Deux Sœurs est un des rares que je n'ai pas encore rattrapé, parce que j'aimerais bien le voir dans de bonnes conditions. J'ai pas eu l'occasion.
C'est pas du pâté, je peux te
dire. Bref, je te fais confiance, je vous fais confiance. Mais en fait, le truc, c'est que Kim Ji-woon, avec ce projet-là, effectivement, il parle, on s'en doutait dès le début, il parle de sa condition de réalisateur. Plus spécifiquement, il parle du geste créatif qui anime les réalisateurs et du paradoxe qui court dans l'industrie cinématographique, à savoir que ceux qui financent les films ont une mentalité industrielle, ceux qui les fabriquent et qui les mènent à bout ont une mentalité artistique, et comment les deux cohabitent ou ne cohabitent pas, c'était les grandes questions que le film promettait de se poser, et de fait, il se les pose mal. Très mal, et c'est ça le souci. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un souvenir très très ému du premier visionnage de J'ai rencontré le diable il y a un paquet d'années maintenant, parce que je m'étais souvenu d'un film qui déjà était une proposition hyper radicale, mais surtout d'un film qui était un sommet de mise en scène, un sommet de découpage, un sommet de tension. Et là, quand on est dans cette configuration-là, donc dans le Séoul des années 70, qui n'est pas le Séoul d'aujourd'hui, hein, qui est un Séoul quand même beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, et qu'en plus on est avec un réalisateur hyper obstiné qui ne se rend pas compte que son film se casse complètement la gueule, mais qui veut le mener à terme contre les producteurs, contre la censure de l'État, contre ses collaborateurs et surtout ses collaboratrices, ça je pense que Sophie reviendra là-dessus, il y a matière à faire un grand film de tension. Or, pour moi, c'est pas un grand film de tension, c'est un film qui te gueule dessus. Et c'est pas la même chose. C'est que je trouve que moi, le film a un gros problème de dynamique. Dès le départ, je sens qu'on est déjà dans la frénésie. On est déjà dans la fièvre, alors que le film n'a pas encore eu le temps de poser suffisamment d'enjeux et suffisamment de mèches à allumer pour que justement, cette fièvre puisse advenir petit à petit, progressivement. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'un film qui n'a pas envie de m'embarquer avec lui, d'un film qui a envie de me secouer dans mon fauteuil, qui a envie de me mettre des tartes, en fait, tout simplement, pour me montrer, ou plutôt pour me surligner, à quel point c'est difficile de faire un film, à quel point c'est une aventure surhumaine. Bon, déjà, moi, je suis pas forcément d'accord avec cette conception-là de la fabrication cinématographique, mais ça, c'est juste une divergence de point de vue. Je vais pas en tenir rigueur à Kim Ji-woon. Ce qui me pose plus problème, c'est que c'est un film qui parle de cinéma, et qui n'est pas capable de produire du cinéma d'aussi bonne qualité que ses précédents longs métrages. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un film qui est, malheureusement, il est pas mal filmé, attention, c'est pas de la mauvaise cam, parce que Kim Ji-woon, il sait quand même se servir d'une caméra.
Bah, c'est pas Jules Clodo, quoi.
Je le trouve quand même beaucoup plus classique, beaucoup moins innovant, beaucoup moins imaginatif que dans ses précédents films, alors que, ne serait-ce que sur des questions de montage, il y avait matière à s'amuser, il y avait matière à proposer des choses. Là, je trouve que, par exemple, les différentes ruptures entre le tournage et le film dans le film, pour moi, sont assez classiques. Je précise, et c'est pour vous dire à quel point le visionnage a été très compliqué pour moi, je suis pas resté jusqu'à la fin du film. Parce que vraiment, ah ouais. Je me faisais gueuler dessus non-stop par le film, et je ne voyais pas où était le début du commencement d'un propos, en fait. Je suis resté 1h30 sur 2h15 de film. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible, tu vois. Et ça, c'est un vrai souci. Et je sais, Simon, on en avait parlé un petit peu hors micro. Le cinéma sud-coréen, l'un de ses grands motifs esthétiques et dramaturgiques, c'est le cas chez Bong Joon-ho, c'est le cas encore plus chez Park Chan-wook dans Oldboy, par exemple. C'est un cinéma qui aime travailler l'outrance. L'outrance des corps, l'outrance des sentiments. Et c'est pour ça qu'on a des acteurs qui sont très expressifs, qui d'ailleurs, à mon sens, sont en général plus proches de l'expressivité du cinéma muet que du cinéma parlant, avec des corps qui bougent énormément. C'est le cas de Song Kang-ho depuis très longtemps, c'est le cas de Choi Min-sik, de quantité d'acteurs et d'actrices sud-coréennes qui sont impressionnants pour ça, pour leur travail du corps. Le problème, c'est que cette outrance, quand elle tombe juste à côté et qu'elle est un tout petit peu fausse, moi, elle m'en devient insupportable. Et vraiment, je le dis, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Kim Ji-won. J'allais voir le film en étant hyper excité de voir sa nouvelle livraison. Et bon, la fatigue du festival n'a pas aidé, hein, ça c'est clair. Je n'ai pas pu aller à terme, quoi. J'ai pas pu aller au bout du truc. Et
juste pour l'anecdote, on n'est pas les deux seuls à être sortis de la salle. La salle se vidait vraiment.
C'était l'hémorragie un peu. Hein.
C'est parce que je suis fatigué, que je suis un peu émotif, et je t'ai jamais vu fâché contre un film comme ça depuis le début du festival.
En fait, je suis pas fâché. Je suis déçu.
Souviens-toi du premier enregistrement quand même.
Je suis très déçu.
Non, franchement, c'est pas la même chose.
Fondamentalement, je sais que ça peut sonner comme de la colère. En vérité, je suis surtout très déçu. Je suis déçu parce que moi, je ne considère pas que ce soit une bonne chose qu'un film mette plus d'une heure et demie à commencer à me raconter quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, ce cinéaste qui pète des caprices parce que les producteurs ne veulent pas financer son film, alors que si on prend un point de vue un tout petit peu objectif, bien sûr que les producteurs ne vont pas te financer. Et d'ailleurs, c'était un problème que j'avais eu. Dans le pendant documentaire du cinéma, j'avais eu ce problème-là avec Jodorowsky's Dune. Que je trouvais le film intéressant dans sa manière de montrer le projet complètement fou de Jodorowsky, mais le fait que le film, plus on avance, plus le film commence à nous dire, bah en fait, le vrai problème dans tout ça, c'est que les producteurs n'aient pas eu assez de couilles pour financer Jodorowsky, t'as un peu envie de leur dire, non, mais le film est infinançable. Et ça, on ne peut pas transformer la réalité jusqu'à ce degré-là. Et là, c'est la même chose. Le film dans le film a l'air vraiment pourri, les réécritures n'ont pas de sens, le mec ne...
C'est le but. Enfin non, pardon, excuse-moi. Non, je te laisse
pas
faire,
pour
mais...
moi.
Ah, bah bien sûr que pas si. Pour moi. Non mais pardon, excuse-moi, je te laisse terminer.
Non, vas-y, vas-y, enchaîne.
Non, je vais laisser Sophie parler avant, mais. On reprend la mission, on laisse pas Nico décider, et c'est Sophie qui parle après.
Sophie, c'est moi qui décide. C'était quoi le premier film? Je sais plus.
Le My Wen.
Ah oui, sur le My Wen, on était salés.
Ça c'était il y a deux ans. C'était pas cette année.
Faut vraiment qu'on parle.
Ouais.
Moi, je suis hyper embêtée parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film plein de fois. Et si c'est pas déjà ce film-là, c'est des bouts de films qui sont ramassés les uns dans les autres. L'année dernière, on a eu Coupé, qui était un remake. Et en fait, les films de cinéma qui parlent de cinéma sur le cinéma, il y en a depuis toujours. Certains sont parmi mes préférés. Chantons sous la pluie, par exemple, qui parle de l'industrie du cinéma. Il y en a qui vont parler des égos des artistes qui se brisent. Il y en a qui vont parler de l'imaginaire. Je pense notamment à La Rose pourpre du Caire, qui est genre une projection du spectateur. En fait, il y a un milliard de biais pour parler du cinéma dans le cinéma, pour parler soit des artistes, soit des réceptacles, que ce soit les spectateurs ou genre l'industrie. Enfin, en fait, il y a pas mal de... Ou même la presse, hein. Il y en a qui parlent de la presse directement. Après, on va avoir les biopics sur les grands réalisateurs ou sur les mauvais réalisateurs. Je pense à Ed Wood, évidemment, de Tim Burton. Je pense à The Disaster Artist, qui est plus récent. Et on en a plein, hein. On va même avoir des films sur des scénaristes, hein, comme le biopic de Trumbo. On va avoir des trucs très classiques et on va avoir des parodies. On a
des chefs-d'œuvre. On est obligé de citer Sunset Boulevard.
Par exemple.
Qui est un chef-d'œuvre absolu.
Voilà. Absolu. Et récemment, on a eu quelques parodies. Hein, je pense notamment à Coupé. Moi, je préfère la version japonaise à la version de Hazanavicius. Mais en fait, pour moi, on est sur le même processus de « on est tout le temps ou presque, sur le plateau. Et donc là, on est sur une espèce de frénésie de plateau où on a tout le temps genre des gens qui viennent mettre des bâtons dans les roues, un espèce de d'ego trip de réalisateur. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que j'ai déjà tout vu. J'ai déjà vu les acteurs qui veulent pas faire parce que le réalisateur est complètement dictatorial. J'ai déjà vu cette espèce de passion semi-amoureuse de alors là c'est pas l'assistante réelle, c'est plutôt la fille de l'ancien directeur de la boîte de prod qui croit vraiment dans le réalisateur. En fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est des clichés que j'ai vus tout le temps, surtout de plus en plus récemment. Et le propos, j'avoue que j'ai du mal. En plus, pour vous dire, le film s'ouvre sur un très joli noir et blanc, très, très factice. Et j'ai senti dans la salle qu'il y a eu une espèce de petite surprise que c'était un film dans un film. Je vois pas à quel moment c'était une surprise. Dès que j'ai vu, j'ai fait « bah c'est un film ». Mais c'est pas qu'un film, c'est genre un rêve d'un film d'un rêve. Genre vraiment, j'étais en mode « ah, tu filmes, tu pars si mal en termes de narration ». Je trouve que tout le monde hurle. Je trouve que le rythme comique est épouvantable. Et pareil, j'avais vraiment envie de le voir parce que j'aime plutôt son cinéma. Je le connais pas assez bien, mais tout ce que j'ai vu, j'ai adoré. Deux Sœurs, je crois que c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'on est... Je sais pas si c'est la fin du festival qui fait que j'en peux plus qu'on parle de cinéma et qu'un film me parle de cinéma. C'est peut-être ça. Hein. Je suis peut-être en overdose. Mais surtout, là, je crois qu'il y a trop un empilement de clichés, notamment ce tout début de film que j'ai pas pris personnellement, hein. Vraiment je le dis avec des gros guillemets, ça m'a même fait rire une fois ou deux de dedans. Ce mec qui arrive dans un café, le réalisateur, et t'as 4 mecs qui arrivent aussi et qui font tu penses qu'un jour t'arriveras à faire un meilleur film que ton premier, parce que en train de lui gâcher son bibimbap qui avait l'air délicieux, soit dit en passant. Et après il dit ouais, mais vous les critiques, vous êtes que des réalisateurs ratés, wesh. Et vraiment j'étais en mode ok, bon bah ça va parce que la scène est plutôt rigolote, mais en fait il y a plusieurs moments où on revient encore sur le rôle de la critique et sur le fait que tout dans ce film est tout dans ce film est là pour montrer qu'en fait on est juste là pour cadenasser pas que la critique, hein, mais que tout le monde est contre le réalisateur parce qu'on ne peut pas complètement le soutenir dans sa vision artistique. Et en plus, je trouve que c'est un personnage très faible qui est là par passion débordante, mais qui au final se fait littéralement vampiriser par chaque idée qui passe. La narration est genre catastrophique. Bref, non. Mais par contre, je trouve pas ça mal réalisé, contrairement à Alexis.
Arthur, t'as une tête, mon pauvre. T'as l'air d'être complètement blasé.
Désolé, hein.
Non, mais en fait, je vais vous parler d'un autre film qui s'appelle Dans la toile de Kim Ji-woon. On n'a pas vu le même film, je pense.
Alors, c'est quoi ce film ?
Eh ben, ça raconte un réalisateur qui est un réalisateur raté et plutôt nul, qui croit avoir un éclair de génie en voulant retourner des scènes de fin, mais qu'en fait tout le monde lui dit mais t'es complètement débile, parce qu'il est complètement débile et le film te montre dès le début. Mais il va quand même aller au bout parce que les génies, on leur fait confiance et souvent à tort, et le film le montre. Vous n'avez pas vu la fin. Donc en fait, il y a plein de trucs que vous dites qui ne fonctionnent pas dans votre raisonnement. Je suis désolé de vous le dire, mais vraiment, sur pourquoi les critiques lui disent ça, sur pourquoi il agit comme ça, sur pourquoi lui, il a fait un excellent premier film et pas la suite, tout est résolu. Il y a une scène qui est brillante le fameux plan séquence qu'il veut faire depuis le début, mais bref. Kim Ji-woon, il a certes fait 3 grands films d'horreur, mais Kim Ji-woon a commencé sa carrière avec The Quiet Family, qui est une comédie.
Oui,
et
comédie
il a
noir,
aussi fait comédie noire, comme celui-là. Et il a aussi fait une autre grande comédie, avec Song Kang-ho encore, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Cinglé. Donc en fait, Kim Ji-woon a toujours alterné les deux. Et là, ce qu'il fait, c'est pas un retour au plus burlesque de ce qu'il a pu faire, mais c'est une vraie comédie de Kim Ji-woon. Moi, j'ai vu Quiet Family il y a quelques semaines, et j'ai retrouvé ce ton-là. J'ai retrouvé un peu cette vibe-là. Vibe horrible. Ouh, non.
Juste petite précision, Song Kang-ho, qui est l'un des acteurs fétiches de Kim Ji-woon, que vous connaissez notamment grâce à Parasite.
Grâce à Parasite, oui. Et pour son prix d'interprétation à Cannes l'année dernière, ouais. Pour Broker de Kore-eda.
Absolument.
Moi, là où le film, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup trop de films qui parlent de cinéastes qui galèrent. Effectivement, quand on le voit, on pense, enfin, moi personnellement, j'ai pensé immédiatement à Coupé. C'est sûr, mais le film réussit à faire quelque chose que je trouve assez intéressant. Il parle de son époque, parce qu'il parle ça se passe dans les années 70, donc il parle de la censure. Il y a tout un passage que vous avez raté avec le monsieur qui permet qu'on finance ou qu'on finance pas ton film, qui vient et qui dit et qui est le maître de la censure. Qui est là pour dire c'est moi qui vais faire que ton film se fait ou pas, et il se fait que s'il est anticommuniste.
Mais ça, on l'a vu.
Vous êtes parti après ça?
Ah bah oui. Ah,
parce que ça, c'est un arc qui est étiré encore jusqu'au bout et surexploité.
En fait, juste pour...
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le film s'inscrit dans son époque par rapport à la politique de l'époque de la Corée du Sud où les films subissaient une censure très forte. On parle beaucoup du cinéma coréen. Il faut savoir que c'est surtout le cinéma des années après 90-2000. Le cinéma d'avant, c'était très compliqué avec un régime qui vraiment voulait faire... des films uniquement en opposition avec la Corée du Nord. Ça s'inscrit aussi dans comment on fait des films dans les années 70, parce que contrairement à Coupé, où c'est de la débrouille, mais c'est de la débrouille numérique et on fait machin, il y a toute une séquence, plan séquence qui rappelle vraiment Coupé, où on suit toutes les petits soucis techniques, sauf que c'est dans un film à plus gros budget, mais à une époque de la pellicule. Ça mène à plein d'autres problématiques, et je trouve que le film est assez fort. Moi, le personnage, contrairement à vous, je comprends, moi, dès le début, que c'est un réalisateur raté. Pour moi, il va plus pencher du côté de Ed Wood que de Coupé ou de ce qu'on veut. Et c'est un réalisateur qui est pas bon. Tous
les
plans.
C'est un réalisateur raté dans Coupé aussi. Hein. Ah, c'est complètement
oui, si
un tocard. C'est complètement
oui, d'accord.
un tocard.
Mais dans tous les cas, dans tous les films que tu as cités avant, c'est les deux autres exemples qui parlent de réalisateur raté. Mm. Pour moi, ce film s'inscrit là-dedans. Donc en fait, moi, il y a une vraie réflexion que je trouve très intéressante de la part de Kim Ji-woon qui est qu'est-ce qui se passe quand un mec qui est nul, et qui est nul pour une raison très précise qui est le dernier plan du film, croit qu'il a enfin trouvé une manière d'être bon, lui qui n'a jamais réussi à l'être.
Moi je sais, et il fait un film sur un bateau avec des gens qui vomissent. Ah non, c'est pas ça.
Putain, j'ai cru deux secondes, tu parlais de James Cameron, j'ai dit quoi ? Ça va pas ?
Non, très peu de vomi dans Titanic. Curieusement.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc pour moi, le film parle pas de je le mettrais plus en parallèle avec le Condrie à ce niveau-là.
Il parle pas de
lui, il est méchant avec les autres. Il est terrible avec son équipe technique qui eux sont pourtant toujours essayer d'être le mieux possible, mais il galère. Il y a plein de sous-intrigues dont on se fout. C'est trop long, je suis d'accord. Mais moi, je le trouve extrêmement dur avec le film. Et encore une fois, je trouve que la fin résout plein de choses. Peut-être que c'est un défaut du film, qu'il faille la fin pour résoudre toutes ces intrigues là.
En fait,
mais moi je trouve que le film
c'est pas
hyper bien.
Je sais pas si c'est un défaut, et je te fais complètement confiance Arthur si tu dis que le film renverse en quelque sorte son dispositif, mais c'est un souci qui est peut-être lié à la place du film dans la programmation du festival.
Ça peut être.
Parce que faut le dire, quand on regarde le festival de Cannes de loin, on se rend pas forcément compte de ça, mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que ce festival là existe et que des festivals comme ça existent partout dans le monde. C'est que c'est des festivals où on voit entre 2 et 4 films par jour pendant 11 jours. Donc en fait, la structure même du festival fait que les réceptions des films sont exacerbées, dans
bien
le
sûr.
Négatif comme dans le positif.
Absolument.
D'ailleurs, ça arrive assez souvent qu'un film fasse scandale à Cannes, avec d'un côté ceux qui trouvent que c'est immonde et de l'autre côté ceux qui trouvent que c'est absolument génial. Et en fait, quand le grand public découvre le film en salle, la réception globale est oui, bah en fait c'est moyen. Et ça arrive très souvent. Là, moi où j'ai un vrai problème de fond avec ce film-là, et c'est pour ça que je me suis autorisé à ne pas aller à son terme, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que c'est un film qui ne veut pas de moi pendant une heure et demie. Et c'est ça qui me pose problème. Mais c'est encore une fois un problème totalement subjectif, mais je le dis parce que je suis sûr à 100% qu'il y a des spectateurs qui vont se reconnaître là-dedans.
Sans
et
doute.
À Cannes, c'est sûr que c'est le cas vu le nombre de gens qui sont partis de la salle, et ce sera à mon avis le cas quand le film sortira. Mais moi j'ai du mal avec cette idée que un film soit désagréable pour son audience, mais surtout, moi j'ai le sentiment pendant l'heure et demie que j'ai vu qu'en fait, Kim Ji-won, il a fait ce film pour lui, et que la place du spectateur dans son dispositif, elle est très très secondaire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment vécu le film comme une espèce d'outrance permanente et un peu gratuite. C'est que je me suis dit, en fait, là, tu es en train de réaliser ton film parce que tu as très 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 envie de dire quelque chose sur le cinéma, mais t'as pas forcément envie que ce propos-là soit inclusif pour ton audience. Et surtout, tu nous secoues dans notre fauteuil, mais finalement, tu galères à nous dire quelque chose de véritablement profond et de véritablement captivant. Donc j'ai l'impression de me faire secouer et de vivre une séance désagréable pour aucune finalité en fait, et c'est pour ça que je suis parti. Et ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle en fait, tu vois, dans la manière dont les films sont faits et dans la manière dont les films sont reçus, tu vois.
Je terminerai sur ça parce que ça fait longtemps qu'on est sur le film et on va s'arrêter là. On reparlera du film quand il sortira en salle, mais moi je suis pas d'accord du tout avec ça, parce que dès le début s'installe via un personnage un jeu d'enquête, et moi en tant que spectateur j'étais pris dans l'enquête de alors attends, eux ils sont ensemble, ok, là c'est quoi le secret, ah y a ça, alors lui il parle d'un feu, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, pourquoi la productrice elle est pas là, qu'est-ce qui se passe. Et moi pendant une heure et demie, certes ça hurle, certes ça crie, certes c'est le bordel comme ça peut être le cas sur certains plateaux de tournage avec un réalisateur qui est débile, mais moi tout du long je me demande mais qu'est-ce qui se passe, où il va, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi ils font ça. Et les dernières 45 minutes sont magistrales.
On fait un petit tour de table pour essayer de vous réconcilier, parce que j'aime pas quand vous fâchez, ça me donne envie de pleurer. Mais c'est parce que je suis fatigué. Sophie, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre.
Ouf, alors le point fort pour moi c'est peut-être la photo que je trouve vraiment quand même plutôt jolie. J'aime bien quand il y a des reconstitutions de décors un peu à l'ancienne, notamment à un moment une forêt où une nana se coupe le pied. Je trouve qu'il y a, y a quelque chose de très un peu carton-pâte, mais et ça reconstitue bien la reconstitution d'un cinéma de l'époque un peu carton-pâte, un peu fauché. Point faible pour moi c'est la narration et surtout... Le fait que, parce que tu l'as bien dit Arthur, hein, y a plein de sous-intrigues, mais pour moi elles sont toujours parasitées par le... par une autre intrigue et j'arrive jamais à me focusser sur quoi que ce soit. Donc c'est peut-être la fatigue du festival, mais il y a rien qui m'intéresse dedans. Et palmomètre ou phénomètre. Phénomètre, bah rien, zéro. J'ai passé un mauvais moment et palmomètre, bah rien, parce que c'est pas en compète.
Alexis.
Point fort, je pense que j'irai vers les, entre guillemets, la petite piqûre de rappel historique que le film propose et qui à mon sens est surtout importante pour un public occidental hein, puisque c'est de ce point de vue là que je parle, mais le fait est que le film nous rappelle et explique pour le coup plutôt bien à quel point la société coréenne, sud-coréenne des années 70 est une société assez stricte et assez rigoriste, notamment par les rappels réguliers à l'importance de la censure et comment la censure peut tout simplement annuler un projet. Et surtout, ça crée un parallèle intéressant, c'est qu'on a parfois un peu l'impression d'être dans le Hollywood classique des années 40-50. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien senti dans le film, donc je lui accorde ce crédit-là. Point faible, bah, la mise en scène du film et sa tonalité et son intensité que je n'arrive pas à comprendre et qui me sont mais vraiment... fondamentalement désagréable. Phénomètre, encore une fois 0 sur 10 quoi, parce que vraiment j'ai vraiment vécu une séance désagréable à un niveau épidermique, donc je peux pas dire que je me sois amusé quoi.
Arthur.
Moi point fort ce serait le mélange des genres et la manière qu'il a de mélanger cette manière qu'il a de faire un film d'enquête et en même temps comique et en même temps qui tend sur l'horreur, notamment sur la fin, et qui est en même temps un thriller. Enfin, moi je trouve ça assez fort, et surtout dans ce contexte là où effectivement on a vu beaucoup de films qui parlent du cinéma, réussir à essayer de le faire de cette manière là c'est un peu innovant. Point faible, c'est trop long et il y a trop de sous-intrigues. Et phénomètre 7.
Cobweb de Kim Ji-woon. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt toile d'araignée ou toile de cinéma? Je n'ai vraiment plus du tout d'humour.
Vivement la fin.
Vraiment faire des jeux de mots.
Comment vas-tu, yacht poil?
Et toi, la matelas?
Oh là là.
Comme tu le vois, tu rabras.
J'ai pas compris.
Vous connaissez l'histoire de la chaise?
Elle est pliante.
Pliante.
Un événement hier. Un événement hier à Cannes, un événement comme seul le festival de Cannes peut en produire. C'est la magie du festival, des paillettes dans les yeux et dans le cerveau.
Ça fait très mal.
Petite surprise donc pour les derniers jours de festival, puisque un réalisateur fort célèbre avait choisi un film mystère pour une conversation à bâton rompu. C'était un film très très important, fondateur dans sa cinéphilie, et il faut bien l'avouer, ce n'était pas le réalisateur le moins bavard de l'histoire du cinéma contemporain. Fabien Onteniente présentait La Soupe aux Choux. Pardon. Non.
C'était ça?
Oui, c'était ça, non?
Enfin, je suis vraiment très fatiguée. Hein.
Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as dormi un peu pendant le film.
Ah,
ouh
le
là
film
là,
complètement.
Ça balance.
J'ai habitué. Ouais.
J'ai une photo, les enfants, de Sophie Alexis en train de ronquer.
Ah ouais,
le festival est difficile, hein, les gars.
Il faut que je précise un truc. On était au balcon. Et d'un coup, je sens que je peux pas comprendre le film uniquement de manière audio parce que le son est un peu vieilli.
Bah, c'était une copie 35 mm, elle est pas.
Voilà, ils ont des accents.
Pas une copie restaurée. Hein.
Ils ont un phrasé un peu particulier, donc voilà. Et en fait, au niveau des sous-titres, il y a une tête devant moi. Et donc, c'est soit je fais du slalom avec mes épaules pendant une heure et demie, soit je me repose. Et donc, vraiment, mon cerveau a fait maintenant tu dors. Et j'ai dormi de la minute 4 à la minute genre. Quand la lumière s'est rallumée, quoi.
Voilà. Sachant que moi, pour le coup, j'avais déjà vu le film en question, donc je me suis autorisé une petite sieste technique de 20 minutes, puisque je savais exactement
ça,
le
ça
film
allait. Ah, c'est si tu l'as déjà vu, ouais.
Ouais, mais en plus, le pire, c'est que je crois, alors de mémoire, l'avoir vu en salle à Paris en 35. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais déjà vu vraiment cette séance-là, ah, je l'avais merde. Déjà vu, quoi. Donc je me suis autorisé une petite pause technique qui n'a pas été suffisante, bien malheureusement.
Mais c'est quoi, du coup, les actions que tu as du mal à comprendre dans La Soupe aux Choux, Sophie?
Bah, c'est le... je ne le referai pas. Voilà. Là, tu vois, j'ai pas compris.
Bah ouais. Moi non plus, mais en revanche, j'ai senti et c'est pas très agréable.
Le vernia, ça veut dire rends-moi ma croûte de Saint-Nectaire.
Ah. Ouais.
Et donc, il ne s'agit pas de Fabien Onteniente, comme vous l'aurez bien entendu deviné.
Mais d'un autre italien.
Il s'agit de Quentin Tarantino qui présentait Rolling Thunder de John Flynn.
I'll just get my gear. There's the four that came into my home, and there's eight or ten of them. Let's go clean them up.
Rolling Thunder.
Rolling Thunder, Rolling Thunder, Légitime Violence de John Flynn, un film de 1977 avec William Devane et Tommy Lee Jones. C'était un chouette moment, Arthur, cette rencontre avec Tarantino. La salle était à feu et à sang. Enfin, c'était assez cool.
En fait, c'est ça qui était marrant, je pense. Enfin, c'est peut-être ça qui était le plus drôle d'ailleurs même. C'est qu'il est monté d'abord sur scène pour évoiler quel était le film mystère teasé depuis un mois maintenant par la quinzaine des cinéastes. Et il a dit, don't be French, ne soyez pas français, laissez-vous aller quand ça tire, hurlez, quand vous avez envie d'applaudir, applaudissez. Et c'est vrai.
Il a dit, je vais apporter un peu de Grindhouse à Cannes.
Ouais, et en fait, bah, il y avait un peu de ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que j'aurais vu le film dans un cinéma parisien comme Alexis en 35 mm. Ça aurait été le calme plat, quoi. Et le fait qu'il y ait une ambiance assez folle où tout le monde hurle, mais vraiment, il y a eu des moments où. C'était rigolo et ça m'a rendu, je pense, le film plus sympathique encore. Ouais, et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc pas très français de faire ça, quoi.
Mmh. Et le meilleur étant le point de départ, c'est quand donc c'est une histoire, c'est un film de vengeance, c'est un revenge flick. Et le point de départ, c'est quand à un moment donné, le militaire, donc il va se venger, prend les mesures et commence à décider d'aller en découdre. Il découpe le fusil de son canon pour faire un fusil à canoncier. Là, il y a quelqu'un dans la salle qui fait fuck yeah. Ouais. et à partir de là, c'est devenu fun.
on va parler du film, on parlera de la rencontre après, parce que ce qui était aussi intéressant, c'est que du coup, les premières questions de la masterclass qui ont suivi, qui devaient être un peu liées au livre, parlaient du film, parce que le film est un film extrêmement important pour Tarantino, pour sa cinéphilie, pour sa carrière. Moi, le film, je l'ai trouvé sympa, très sympa, notamment pour la fin où quand on voit le massacre final, on se dit d'accord, je comprends pourquoi Quentin Tarantino aime ce film, mais je le trouvais un peu classique sur le papier. Et pendant j'ai pas passé une mauvaise séance, mais je me disais ok, il nous montre ça, je comprends. Et ce qu'il racontait Tarantino, c'est qu'il l'a vu à une double séance. Il voulait voir Opération Dragon avec Bruce Lee parce que tous ses copains en parlaient, et en fait il s'est un peu fait suer. Mais par contre, il y avait un film juste après, Rolling Thunder, et là il s'est pris une énorme claquasse. Je pense que la claquasse, elle se tient objectivement pour la fin, pour le massacre final, parce que comme tu l'as dit, c'est un film de vengeance, c'est un militaire qui rentre, il se rend compte
du
Vietnam, il est parti 7 ans, il est revenu, sa femme pensait qu'il était plus là, donc elle s'est remariée, oupsie, elle est plus trop amoureuse, oupsie, et du coup lui il est en mode ok, fair enough, mais malheureusement des truands vont arriver et vont mettre à mal sa vie, et il va vouloir se
mettre
venger.
Mettre à mal sa vie, c'est qu'ils vont tuer sa femme et son fils.
Je sais pas si on spoilait à ce point, mais d'accord, disons-le, ils vont tuer son ex-femme, du coup,
et son fils, enfant,
Et il va rentrer dans une espèce de vengeance noire avec cette serveuse d'en face qui a l'air fascinée par le bonhomme. C'est pas un film incroyable, mais les 30 minutes, c'est du pur Tarantino, je trouve.
Mais en fait, il faut expliquer que Quentin Tarantino est un cinéaste extrêmement cinéphile. C'est peut-être le cinéaste le plus cinéphile. Il a vu un nombre de films absolument incalculable.
C'est pas gentil pour Fabien
Tognante. Non, je sais, mais je pense que le seul qui peut lui tenir la dragée haute, c'est Martin Scorsese, sauf qu'ils n'ont pas vu la même catégorie de films. Et c'est ça qui est important. C'est que Tarantino, depuis très longtemps, il voue un culte immense à quantité de cinéastes oubliés parce qu'ils ont fait majoritairement de la série B, voire de la série Z, qui ne sont pas des grands cinéastes, mais comme ils ont forgé sa cinéphilie, c'est des gens pour qui il a une affection énorme, et John Flynn est vraiment dans la tête de liste de cette catégorie-là. Moi, je trouve que pour parler rapidement de Rolling Thunder, il faut expliquer que Rolling Thunder est un film écrit par Paul Schrader, donc il avait signé un ou deux ans auparavant le scénario de Taxi Driver de Martin Scorsese, qui nous racontait déjà l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui revient de la guerre, qui essaye de se remettre dans la société, sauf qu'il ne reconnaît plus l'Amérique qu'il avait connu avant de partir à la guerre, et qui va petit à petit vriller, sauf que, et Tarantino l'a dit d'ailleurs à la masterclass, Taxi Driver, c'est ce qu'on appelle un film de vigilante. C'est-à-dire vraiment un film sur un personnage qui décide de chercher la source du mal qui travaille la société pour exterminer ce mal-là. Et évidemment, comme tout ceci est très conceptuel, il va jamais y arriver. Et à la fin du film, il finit juste par plomber des proxénètes choisis un peu au hasard, parce qu'il a besoin de se mettre dans la peau d'un justicier. Là, Rolling Thunder, Paul Schrader, il part du même incipit, mais il va vers autre chose, à savoir cet homme qui revient relativement solide psychologiquement de la guerre. Il a des traumatismes, mais il arrive à les gérer. Sauf que, bah, malheureusement, une nouvelle tragédie va lui tomber dessus. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il va se lancer dans une spirale de violence qui n'est pas là pour établir la justice, mais juste pour assouvir une pulsion de vengeance. Et la vengeance, c'est le motif que Tarantino a énormément travaillé dans sa carrière. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant de voir justement ce film-là et ensuite d'entendre Tarantino en parler. Même si, dans l'absolu, je trouve qu'effectivement, à l'exception de son climax qui est assez généreux et de quelques plans, pour le coup, très typé polar de série B, avec les gros plans sur les guns et tout, je trouve que c'est un film qui est assez plan-plan et assez chiant, mais parce qu'encore une fois, John Flynn n'est pas du tout un cinéaste particulièrement visuel, quoi. Moi, c'est un film qui me travaille pas beaucoup, Rolling Thunder. J'ai de l'affection, mais c'est pas un film que... Si Tarantino avait annoncé avant que ce serait ce film-là, je serais peut-être venu juste pour la masterclass, très honnêtement. Parce que...
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Tarantino a expliqué sur scène que Schrader a vu son scénario extrêmement censuré.
C'est le truc le plus intéressant de la masterclass.
Bah, moi, je trouve, en fait, et c'est ce qu'il explique dans son livre, du coup, Cinéma Spéculation, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce film et qu'ils en ont parlé sur scène comme ça. Au départ, le personnage principal devait être extrêmement raciste. L'action se passe au Texas.
Le film, il est encore un peu. Hein. Je veux dire, concrètement, le film est quand même un chouïa. Les Mexicains sont gras et puants. Il faut les tuer parce que c'est de la vermine.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que raconte Tarantino, c'est qu'il en a parlé avec Schrader et que Schrader avait écrit au départ un scénario avec un type extrêmement raciste tout du long et
plus raciste encore.
Bah, en fait, non, je suis pas d'accord avec toi, Nico. Le personnage n'est pas raciste dans le film. Alors, le film, dans sa représentation, peut l'être. Mais le personnage ne l'est pas. Là, dans le scénario de Schrader, il l'était. Il avait des insultes racistes tout le temps. Il n'arrivait pas à dire ces putains de Mexicains. Enfin, voilà. Et, du coup, le massacre final devait vraiment arriver à une espèce de massacre général où on va pas juste tuer les truands, mais on tue littéralement tout le monde. Les prostituées, les clients, tout le monde. Donc, ce que voulait faire Schrader, c'était une critique de la revanche fasciste. C'est comme ça que l'a expliqué Tarantino. Là, le problème, c'est que les producteurs ont dit, c'est un peu compliqué à financer votre affaire, en fait. et du coup, ils ont enlevé plein de trucs, et du coup, Schrader déteste le film. Et en fait, j'aurais peut-être aimé avoir cette anecdote avant de voir le film.
Ouais, je comprends.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, Tarantino dit, ça n'en reste pas moins un film raciste.
Oui.
Et en discutant avec Schrader, il dit oui, mais c'est le meilleur des films de revanche raciste.
J'ai
l'impression que vous parlez du biopic de Donald Trump. Quoi.
Pour expliciter quand même, parce qu'il y a une toute petite ambiguïté dans le propos de Schrader qu'il faut bien saisir, c'est que Schrader voulait effectivement faire un film où le personnage est ouvertement raciste et déteste les Mexicains, et terminer sur un final où il apparaît comme fondamentalement un psychopathe, un tueur de masse. Mais il voulait faire ça, tu l'as dit Arthur, pour justement pointer du doigt la facilité avec laquelle un citoyen américain peut sombrer dans une vision fasciste de la société. Là où, en fait, le paradoxe, c'est que comme le film a été aseptisé, que le personnage n'est plus raciste et que le final n'est plus un gigantesque bain de sang injustifié, eh ben, du coup, paradoxalement, le film devient raciste parce qu'il normalise cette vision-là. Mmh. C'est-à-dire que si le scénario de Schrader avait été réalisé tel quel, le spectateur aurait bien compris que la vision du Mexique n'est pas véritablement le Mexique, c'est comment un Américain peut être amené à considérer le Mexique. Or là, le film normalise ce truc-là et en fait une généralité, ce qui en fait donc effectivement un film facho, mais un film facho intéressant à bien des égards. Mais c'est cette ambiguïté-là d'ailleurs que Tarantino a cultivé dans ses propres films aussi.
En tout cas, moi je sais que depuis que j'ai vu ce film, je me tiendrai très éloigné des éviers à broyeur.
Oui. Ah oui, clairement, ouais.
Mais bon, on en a vu d'autres scènes d'Evia Broyer qui sont bien plus douloureuses que celle-là, hein, parce que celle-là, elle globalement fait.
Il y en a une très cool dans Small Soldiers de Joe Dante.
Absolument.
Je ne les ai plus en tête, mais j'ai plein d'images en tête, mais j'ai pas
de film particulier. J'en ai une aussi. Putain, je sais plus quel film, un truc. Non,
là, j'ai vu une scène. Avec... la même mémoire aujourd'hui, là, s'il vous plaît.
J'ai vu une scène de Sandy Breyer il n'y a pas très longtemps.
Ok. Et ben dans tous les cas, ça devient un Capitaine Crochet que je trouve rigolo.
Non, mais ce qu'on peut dire tout de même aussi, Alexis, c'est que sur la structure du film, brièvement, c'est un film pas incroyablement rythmé. C'est un film qui a une sorte d'histoire d'amour un peu lente et qu'effectivement, tout ne vaut que pour le climax final qui dure un quart d'heure de déchaînement de violence. Avec, ah si, il y a une chose quand même très stupéfiante et incroyable dans ce film, c'est de réaliser que Tommy Lee Jones est une bombe sexuelle.
Je ne le savais pas non plus, t'as raison, c'est vrai.
Non, mais c'est parce que c'est, quand on pense Tommy Lee Jones, on pense pas sex appeal.
Alors, le sex appeal est présent, mais quand le sex appeal, c'est lui qui s'habille en militaire et qui utilise son fusil en mode pam pam, là non, il perd.
Et puis, il y a un petit truc, il y a une petite ref homo-érotique, tranquillou bilou à la fin quand même, où ils sont tous les deux un peu en mode genre bon. Mais bon, en dehors de ça, en dehors de ça, la structure du film est un peu laborieuse.
Enfin, oui, le film est laborieux, mais en fait, je pense que le film est laborieux comme Taxi Driver. Au niveau de la stricte écriture, est un film aussi un peu poussif et un peu laborieux. C'est la période où Shredder n'a pas encore atteint l'efficacité narrative qu'il atteindra un petit peu plus tard, notamment avec les films qu'il a lui-même réalisés, comme Hardcore par exemple, qui est en fait un film, je trouve, bien mieux rythmé et bien mieux construit que Taxi Driver. Mais Taxi Driver...
Non, mais c'est pas grave.
Mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais Taxi Driver, la mise en scène de Scorsese habite le film. Et c'est ça le truc, c'est que John Flynn, c'est pas un cinéaste particulièrement visuel, quoi. On lui a donné la tâche d'illustrer un scénario, et bah, il va illustrer un scénario. Et on sent bien que quand il y a des scènes de tuerie, ça l'excite un peu en termes de mise en scène, mais que la plupart du temps c'est très plan-plan, quoi.
Oui, et puis le film, alors moi je l'ai pas vu avec vous hier, mais c'est un film que je connais bien et que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas accompagné. Il y a un truc aussi qui est particulier, qui est très emblématique de comment sont faites, ou plutôt étaient faites, les séries B à l'époque, qui pour moi joue énormément du charme du film et du charme de beaucoup d'autres dans le même genre. C'est qu'une série B, ça vient d'où l'expression série B, c'est un budget B par rapport à un budget A. C'est-à-dire que c'est un budget moindre, il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent, donc il y a souvent des techniciens, pas forcément moins accomplis, mais plus jeunes en fait, tout simplement, qui ont moins d'expérience. Bah, si t'as moins d'argent, t'as moins d'expérience, tu vas devoir choisir où tu dépenses le pognon dans ton film. Ce qui veut dire que souvent les films de série B vont avoir un climax, parce qu'évidemment t'as envie de satisfaire le spectateur à la fin, pour qu'il parte sur une bonne impression. Et donc on va concentrer les moyens, l'inventivité, sur un dernier acte, un dernier tiers, voire un climax, voire vraiment la toute fin du film, qui vont avoir pour mission de tout faire péter. Et moi, je dois avouer que je suis très sensible à ces films, qui la jouent un peu piano pépouze pendant leurs deux tiers ou leurs trois quarts, et qui pètent à la fin. Et moi, c'est un truc auquel je suis très attaché.
La soupe au chou.
Exactement.
Bah, sûr qu'il pète au début.
Oui. Enfin, moi,
il pète un peu tout le long, mais.
Moi, en général, je pète à la fin et.
Non, surtout
et
pas
c'est souvent ce que les gens retiennent.
Pas après du genre de festival, je t'en prie.
Non, mais c'est pour ça que tu nommes le film.
Ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous aviez l'air de citer un petit peu comme un défaut, pour moi, ça fait partie des choses qui font que je le reconnais, que je le place dans une certaine case, à une certaine époque. Et puis, j'adore ça, quoi. Ce film où tu sens un peu que ça bouille tout du long, que c'est fait par des bons artisans, qui sont pas dégueulasses, les gars. Tu dis, qu'est-ce qu'ils vont me faire à la fin? Puis alors là, à la fin, c'est le Capitaine Crochet, sans applicateur, quoi.
Peut-être que ce qu'on peut dire pour... Ah, pardon.
Non, mais j'aimerais entendre Sophie, parce que Sophie a certes dormi pendant le film, mais Sophie est restée pendant la masterclass ou la conversation avec Tarantino. C'était comment cette conversation avec Tarantino ?
C'était à la fois intéressant et un peu convenu. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand il y a plein de questions, mais pareil, comme Alexis, moi je savais pas que c'était dans la lignée promotionnelle de son livre. Et en fait... C'est bête, mais quand on a quelqu'un d'aussi cinéphile que Tarantino, moi la question qui m'a le plus intéressée, c'était quand on lui demandait de trouver des films qui correspondent à une question d'ordre moral, par exemple. Moi j'avais envie qu'il cite des films, j'avais envie qu'il me fasse une liste limite de certains trucs par rapport à certaines questions. Je sais pas pourquoi, avec ce genre de personnalité, c'est ça que j'attends. C'est, voilà. Donc c'est pour ça que quand on lui a posé la question de quel... Tarantino, c'est un réalisateur quand même très violent. Donc quand on lui a posé la question de la limite entre la violence et la moralité, genre à quel moment il y a un film pour lui, c'est pas regardable. Donc,
ça c'était vraiment intéressant.
Ça c'est hyper intéressant. Il a commencé par une réponse un peu conventionnelle, je trouve, avec laquelle je suis complètement en accord, qui est la violence...
La soupe au chou, c'est insupportable.
Bah oui,
de
mais
violence.
Mais tout le monde est d'accord sur ça.
C'est des retraités qui ont des problèmes gastro-intestinaux.
Fais quand même bien gaffe à ta gueule, toi.
Mais en fait, lui, il disait dès que la violence devient réelle, enfin, dès que la violence est réelle et qu'il n'y a plus de cinéma, parce qu'en fait, il faut que ça reste un jeu, sinon c'est plus du cinéma. Et donc, du moment qu'on torture un animal ou toute forme de vie, il disait un insecte, c'est pareil, on ne doit pas tuer, on ne doit pas faire du mal sur un plateau.
C'est effectivement une réponse très convenue parce qu'à peu près tout le monde est d'accord, quoi.
La personne qui dit non. Bon, bref.
Pensez-lui pour la tortue de Cannibal Holocaust.
Exactement.
Et par contre, en fait, celle-là, donc du coup, m'intéressait un peu, mais après, il a commencé à dire. Il a cité, alors moi je le connais pas le film.
Il a cité Jeu de guerre de Philip Noyce avec Harrison Ford.
Voilà, et en fait,
Jack Ryan.
Exactement, un film de la saga Jack Ryan.
Il a parlé de la moralité des méchants et du fait qu'il ne fallait pas complètement pervertir et tu le dis vachement mieux que
moi. Non, mais en fait, c'est juste. En fait, il a expliqué que le méchant, à la base, est caractérisé comme un terroriste qui agit pour des convictions politiques. Donc, on n'est pas d'accord avec sa méthode d'action et on a envie qu'il soit puni pour ça. Mais on comprend quand même un peu pourquoi il fait ça, parce que c'est un être politique et politisé. Sauf que, au fil du récit, pour justifier le fait qu'à la fin, le gentil tue le méchant, on va petit à petit en faire un psychopathe sans foi ni loi. Et Tarantino dit que transformer un personnage pour justifier sa mise à mort à l'écran, c'est une limite morale qu'il ne peut pas franchir. Ça c'est intéressant quand même.
Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, il citait un film que du coup j'ai envie limite d'aller voir, alors que c'est pas du tout ma came de cinéma, juste pour comprendre son argumentaire. Et je crois que c'est ça que dont j'avais vraiment envie. Après. Oui, ça reste un mec érudit et surtout il a cette vibe de tous les. Chaque fois que j'ai bossé en festival, j'ai toujours rencontré ce typical Los Angeles guy hyper friendly, hyper cool et qui a envie de parler de films au-delà de tout.
Genre, il était très surexcité, hein.
Ouais,
très,
mais il a fait le show.
Il a fait le show comme ça.
Non, mais tu vois ce que je veux dire quand je rencontre ce genre de type en festival, souvent. C'est drôle parce qu'il a la même vibe que des réalisateurs qui ont fait des premiers ou des seconds films que j'ai croisés en festival de genre, qui sont bouffés par le cinéma et qui sont du coup un peu surex. Et donc j'ai bien aimé cette énergie-là, même si Tarantino est finalement pas un... Je crois que j'apprécie à peu près tous ses films, mais c'est quelqu'un qui est en train de rester doucement dans mon adolescence et avec qui je trouve moins de sensibilité.
Oui, Tarantino, on le sait, est un immense bavard, un peu obsessionnel. Ouais. C'est ce qui le rend sympathique. On lui pose une question et il fait 15 minutes. Enfin, je veux dire,
ouais, c'est vraiment ça. Le pauvre présentateur, il avait. C'est le délégué général de la quinzaine. Le pauvre, il avait trois fois plus de questions. J'ai une toute petite anecdote pour conclure ce passage sur Tarantino. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne vous répondrai pas. Mais il se trouve qu'une heure avant la séance, j'ai interviewé Robert Rodriguez.
Pourquoi?
Je vous répondrai pas.
Pourquoi?
Je vous répondrai pas.
Parce que ça rime avec Merguez?
Absolument.
J'étais sûr.
Et j'ai posé mes quelques questions et à la toute fin, il me restait 10 secondes et je lui ai dit naïvement, je lui ai dit c'est marrant, juste après, je vais voir Quentin. Vous avez quand même encore des relations, machin. Est-ce que vous êtes vus? Est-ce que vous allez à la séance? Est-ce qu'il va venir voir votre film ou quoi? Il m'a répondu, il m'a dit qui? Je dis Quentin Tarantino. Il fait ah ouais, hier au resto, il m'a croisé, il m'a dit hey Robert, qu'est-ce que tu fais là? Je fais je présente un film. Il fait ah cool, moi aussi. Et il est parti. Voilà, je voulais vous partager cette anecdote absolument nulle. Okay.
Moi je trouve ça hyper intéressant.
Moi aussi je trouve ça hyper intéressant parce que du coup je me dis du coup c'est qui lui débrouille.
Non mais je pense qu'à la base ils étaient potes, puis un jour Tarantino a regardé les films de Rodriguez, il a fait ok c'est mort.
Spy Kids 3.
Un petit mot très rapide quand même. Le cinéma de patrimoine, il existe à Cannes depuis plusieurs années. Il est représenté par la section Cannes Classics, qui d'ailleurs je crois ne diffuse que des copies restaurées. Cette année, par exemple, on a eu la première projection de la copie restaurée du Mépris et celle de la version ultime de Caligula de Tinto Brass. Même si Tinto Brass la reconnaît pas comme sa version. Enfin bref, ça c'est compliqué. Mais quel plaisir juste dans une compétition qui n'est pas du cinéma de patrimoine d'avoir une parenthèse où un cinéaste vient projeter un film qui n'est jamais projeté nulle part ou vraiment
dans une copie très dégueu,
peu,
hein.
Et dans une copie 35 mm d'époque, donc vraiment c'est une espèce de shoot du passé et dans un contexte en plus qui s'y prête je trouve plutôt bien parce que la quinzaine des cinéastes, l'idée qu'un auteur de série B qui est décédé maintenant puisse voir entre guillemets son film projeté à la quinzaine alors que de base il n'y serait jamais passé, je trouve que c'est plutôt une jolie chose, c'était une belle parenthèse assez touchante dans ce festival.
La soupe aux choux de Jean Giraud avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeneuve.
Non, toujours pas, hein, toujours pas Nicolas.
Rolling Thunder, Légitime violence de John Flynn avec William Devane et Tommy Lee Sexy Jones. Et vous êtes plutôt bordel au Mexique ou et pas dans Lituanie. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Pour finir, vite fait, mal fait, notre critique en 30 secondes. Simon, c'est toi qui t'y colle et qui nous parle de Kennedy, un film indien d'Anurag Kashyap.
Oui, à qui on doit déjà Gangs of Wasseypur et Psychoraman, deux films que j'avais trouvé cool, donc j'étais content de voir Kennedy. Alors Kennedy, ça a été une expérience un petit peu troublante, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait pendant le film. Au bout d'une heure et demie, je suis allé aux toilettes, et il se trouve qu'à la base, j'étais vraiment sur la partie totalement à droite de la salle. Et quand
c'est vraiment passionnant.
Tu vas voir. Et quand je suis revenu...
Et alors, aux toilettes, sur l'échelle de Bristol, t'étais à combien?
J'ai fait un gros braillage à Savarin là.
Je vous déconseille de chercher l'échelle de Bristol sur Google. Vous allez voir.
Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'hôtel. Et donc tout simplement quand je suis revenu, là pour le coup, j'allais pas retraverser toute la salle, donc je me suis mis au siège le plus rapidement disponible, qui était à l'extrême gauche de la salle. Et changer comme ça d'orientation vis-à-vis de l'écran, c'est extrêmement troublant. Voilà. Non, que dire du film?
C'est tout.
Attends, il a écouté mon anecdote sur Rodriguez. Il s'est dit, bah vas-y, on peut raconter des anecdotes pas très intéressantes.
J'ai l'impression d'entendre le truc d'Alison Hannigan dans American Pie.
Et alors, tu vas rire.
Une fois, en cours d'été.
Il y avait une très belle prairie.
Et oui, mais tu remarqueras, c'est depuis que j'ai changé de chaussures. Et donc, bref, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est voilà, si j'ai commencé par cette anecdote passionnante, c'est parce que le film, lui, ne m'a pas tellement passionné. Pourtant, il a plusieurs atouts dans sa manche. Il a un comédien qui est exceptionnel, genre le type sue du charisme, c'est incroyable. Donc c'est très très, le type est charismatique en diable, il joue très bien tout simplement, il a une présence impressionnante et il joue en gros un ex-flic devenu tueur à gages pour la mafia, enfin pour le crime organisé, et qui en fait prépare une vengeance au long cours. Donc ça c'est pas mal. Il y a plein de scènes avec plein de petites idées vraiment assez fun, des mises à mort que j'ai trouvé rigolotes. Enfin voilà, quand le film veut se la jouer un peu Inspecteur Harry sous stéroïde, bah c'est exactement ça, c'est l'Inspecteur Harry sous stéroïde. C'est plutôt plaisant. Hélas, le film dure plus de 2 heures, largement plus de 2 heures, et il a de vrais problèmes de rythme. Pas tant parce qu'il serait lent, mais parce qu'il a du mal à ordonner ses séquences les unes entre les autres pour simplement faire une gradation dramaturgique. Il y a des trucs qu'on voit venir à 100 km et du coup on s'agace un peu de voir le film passer autant de temps dessus. Des articulations émotionnelles ou dramaturgiques qui sont expédiées trop vite, et donc c'est vraiment dommage parce que du coup on se lasse assez vite du film qu'on est en train de regarder, quand bien même on est conscient que c'est dans ces 20-30 dernières minutes que tout va péter, et quand bien même on peut apprécier, je le disais, le jeu du comédien. Et puis en général, c'est ce que je vais dire est un énorme cliché, mais enfin
comme souvent.
Merci. Mais il est en même temps un peu juste, c'est qu'il y a un investissement de tous les acteurs de l'industrie dans beaucoup de productions indiennes qui est impressionnante. C'est-à-dire que même une séquence très cliché d'interrogatoire, même deux types qui s'engueulent, des trucs avec des enjeux et des situations que tu as vu 100 fois, tu notes qu'il y a toujours une volonté de le mettre en scène de manière un tout petit peu différente, que les comédiens vont y aller un tout petit peu plus fort. Et alors ça peut donner des fois quelque chose qui est totalement dans l'outrance, il y en a dans le film, mais c'est aussi un truc qui lui confère pas mal de vie. Voilà, le vrai problème, c'est son tempo, c'est son rythme. C'est un film qui est trop en dents de scie pour durer pas loin de 2h30.
Kennedy, donc, d'Anurag Kashyap. Moi, j'aimerais vous redire un mot, puisque comme ils ne m'ont pas laissé accès au micro hier,
lol,
du film de Tranan Hung, La Passion de Dodin Bouffant. Ils l'ont très bien fait, ils en ont très bien parlé, mais je voudrais vous dire à quel point ce film aussi m'a bouleversé, simplement pour vous dire que c'est une expérience cinématographique complètement inédite. C'est-à-dire, ça n'est pas évidemment qu'un rapport à la nourriture, mais à ce que la nourriture fait comme lien humain émotionnel et affectif entre les êtres humains. Je pense même vraiment sincèrement que pour la première fois j'ai fait l'expérience de synesthésie entre l'image et les saveurs. C'est-à-dire que vraiment il y a des moments où quand on faisait frire des lardons, j'avais le goût qui commençait. C'est-à-dire que la passion et l'amour, la qualité de la mise en scène fait que j'avais presque des sensations gustatives pendant que je regardais le film. Bon, il y a tellement de choses à en dire que je vais pas refaire le débat, mais voilà, je pense que on a là un film immense et un film absolument passionnant et surtout complètement inédit dans l'histoire du cinéma. Voilà, ça c'est fait. Et pour finir, vous le savez bien, hein, comme chaque jour, mais pour l'avant-dernière fois, vous avez droit à un extrait du livre obscène écrit par un charlatan. Et pour changer, c'est moi qui m'y colle. Je me souviens qu'à Dakar, où je suis né, je passais des heures cachées sous ma couverture avec ma petite gazelle, mon animal de compagnie, lorsque les terrifiants orages tropicaux faisaient trembler nos murs. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ma tendre enfance s'est arrêtée à l'âge où mon héros, avant de s'appeler Bayard, portait le prénom d'Amidou. C'était le cuisinier de la maison et il croquait des araignées vivantes devant moi, juste pour m'effrayer, puis partait dans de grands fous rires, ce rire africain. C'est là-bas que j'ai appris à rire, et c'est vrai, ce rire est bruyant. J'ai intégré très vite que les modèles dans la construction d'un petit homme étaient d'une aide considérable et qu'ils pouvaient se situer dans un écosystème plus large que celui de la famille stricto sensu. Mon père et ma mère vivaient au Sénégal quand je suis né. Je suis un Africain blanc.
Est-ce que c'est le moment de dire, Arthur a une tête, c'est incroyable, est-ce que c'est le moment de dire que le livre est un peu différent d'habitude peut-être?
Ah bon?
Oh oui.
Oh bah oui quand même.
Je sais pas, il y a une très belle personne sur la couverture.
Et oui, car tu viens de nous lire un court extrait, notamment de la première page de l'autobiographie de Didier Raoult.
Je suis fasciné par le fait que tu allais acheter le livre.
Non, c'est Simon qui l'a acheté.
Je lui ai offert, dis-toi.
Voilà. Ouais.
Donc moi, je t'ai offert le Bruno Le Maire et tu lui as offert le... Ah, ça va être un très beau cercle de...
Et on va arrêter de se faire des cadeaux très vite, hein, parce que c'est compliqué, là.
Et franchement, je vais te dire, quand t'arrives à la caisse, tu fais pas le malin.
Hein. C'est quand même incroyable parce de pouvoir être à ce point-là raciste dans
c'est
les,
fou,
premières,
dès les premières lignes, quoi.
Et tranquille, je suis un Africain blanc.
Mais tu vois, autant Bruno Le Maire, c'est un peu rigolo, autant je suis pas sûr qu'on va beaucoup explorer ce bouquin.
Mais en revanche, comme il nous reste très peu de papier toilette, je vais le laisser à côté.
Ah, ça, 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 ça,
voilà, on y est presque. Le cinéma, c'est la vie. Cannes, c'est la mort. Mais existe-t-il un monde en dehors de Cannes? C'est vrai, y a-t-il encore, je sais pas, une réalité tangible ailleurs? Vous qui nous écoutez, êtes-vous réel? Qu'est-ce que c'est que le réel? D'ailleurs, qui sommes-nous? Qui suis-je? Maman? Maman, c'est toi? C'est toi qui me parles dans ma tête? Mais pourquoi veux-tu que je les tue tous? Ils sont... Maman? 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 Non, mais non, je les aime. Au secours. Ah! Bye les amis. Et gloire à la liberté.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.